Bonjour à vous. Donc, je vous propose de commencer tout de suite cette séance introductive donc au cycle 2016. Cet atelier, le nom il est un peu flottant, mais c'est toujours la continuation de la question de l'étranger. Donc, je propose un intitulé qui est un enchaînement de noms, une articulation de noms qu'on va aborder. Donc, l'étranger, deux points, l'État, la nation, la frontière, la mondialité. Ou on pourrait dire aussi, mais ce n'est pas le même terme, on y reviendra, le cosmopolitisme. La mondialité ou, si vous voulez, entre parenthèses, le cosmopolitisme. Cosmopolitisme, on s'arrêtera sur ce terme assez longtemps d'ailleurs, parce que c'est un terme aussi philosophique. C'est un terme, pour mémoire, c'est un nom que j'avance parce qu'on l'abordera parmi les philosophes qu'on va traiter. C'est un nom qui a été mis en avant et qu'on redécouvre aujourd'hui par le philosophe allemand des Lumières, on peut dire, Emmanuel Kant, K-A-N-T, qui a écrit donc un texte sur le cosmopolitisme. Philosophe allemand, donc, des Lumières, on va dire. Donc, d'emblée, on est parti sur la question des noms. Et en fait, petite réflexion préalable dans cette séance introductive, je dirais que la meilleure définition de la philosophie aujourd'hui, c'est peut-être l'effort de pensée qui consiste à trouver le mot juste. Et je crois que, particulièrement dans la période actuelle, et notamment depuis 15 jours, je ne peux pas ne pas en parler, la question des mots, la question des noms est centrale. Moi, je suis frappé par le fait qu'il y a beaucoup de discours oraux ou écrits depuis le 13 novembre. Oraux, tous les commentaires que vous pouvez entendre par des journalistes, des experts autoproclamés ou quelques-uns un peu pertinents, des « entre guillemets intellectuels » de tout poil, je mets bien des guillemets, dans des interviews, des interventions radiophoniques ou télévisuelles. Et puis aussi, je suis frappé par le nombre d'écrits. J'ai passé pas mal de temps à rechercher tous les écrits. Il y a eu énormément d'écrits, plus ou moins longs, dans cette période-là, écrits émanant d'écrivains, de sociologues, d'historiens, de philosophes, de journalistes, d'experts internationaux, etc. Écrits en France et écrits aussi d'ailleurs à l'étranger. Et ce qui me frappe, c'est un constat, c'est qu'il y a une grande confusion. C'est-à-dire qu'en gros, je n'ai pas tout lu, mais lu beaucoup de choses. Et quand on regarde ce corpus qui se constitue, tout et son contraire y est dit. Ce qui veut dire que plutôt que de clarifier les idées, si on espérait se clarifier les idées à partir de là, c'est plutôt l'inverse qui est produit. C'est-à-dire qu'on est en pleine confusion. Et ce qui me frappe, c'est qu'une raison de la confusion majeure, c'est que les mots utilisés ne sont pas utilisés à bon escient. Il n'y a pas d'effort pour trouver le mot juste, pour nommer de façon juste les choses. J'entends juste dans l'équivalence grecque qui n'est plus aujourd'hui, on en avait déjà parlé, peut-être tellement en cours, l'équivalence grecque antique. Juste, c'est ce qui a à la fois obéi à l'exigence de justesse, c'est-à-dire au fond de justice, c'est rendre justice, et à l'exigence d'exactitude. Donc exactitude, entendez-le par exemple plutôt dans le sens mathématique. Voilà. Et dans les discours actuels, il y a peu le souci de la justesse, de l'exactitude des mots utilisés. Et je pense que pourtant, philosophie, c'est peut-être qu'une question de langage, c'est qu'un effort de langage, c'est l'effort consistant à parler justement. C'est un effort qui n'est pas gagné parce que les mots sont rusés, le langage est connoté, le langage est plein d'histoires, le langage est lesté par des siècles de théories, d'opinions, de cultures. On est lourd de culture, au pluriel, je dirais. D'usure aussi. J'aurais tendance à dire que c'est difficile de trouver le mot juste. Par contre, il y a la question de est-il légitime de publier, sous une forme ou une autre, quand on est dans la recherche confuse du mot juste, parce que le gros risque, c'est qu'on ajoute à la confusion auprès des lecteurs. C'est le problème de la publication qui est en cause. Ce n'est pas le fait qu'on ne trouve pas le mot juste. C'est le fait qu'on prétend éclairer, du coup, les gens, alors qu'on ne fait qu'ajouter une opinion aux innombrables opinions. Et pour le dire autrement, la philosophie, c'est cet effort, en essayant de trouver le mot juste, de passer du régime de l'opinion au régime de ce que Platon appelait l'opinion droite, au régime d'une pensée qui est mise à l'épreuve d'elle-même, au fond. C'est ça l'enjeu. Il y en a qui font partie de la réflexion, incontestablement, mais qui sont noyés dans le brouhaha. Et un effort philosophique, c'est d'essayer de faire le tri, justement. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, déjà. Ce n'est pas donné à tout le monde parce que intervient aussi beaucoup dans la réception la question du prestige médiatique, du prestige social. Le prestige social n'est pas équivalent à la rigueur du discours. C'est ça le problème. Une thèse qui a été développée, il a beaucoup évolué là-dessus par un philosophe contemporain, je ne sais pas d'ailleurs si on aura le temps de venir sur sa pensée, parce qu'il a traité de nos sujets, hein. C'est Jürgen Habermas, un philosophe allemand contemporain. Habermas, Jürgen, c'est J-U accent R-G-E-N, Habermas, H-A-B-E-R-M-A-S. Jürgen Habermas, pendant longtemps, a réfléchi sur la question de la construction d'une société démocratique qui tente d'obéir à une exigence de vérité, et il a prôné effectivement la société démocratique comme espace du débat. Le problème, c'est que tout débat ne conduit pas forcément à la clarification. On le constate, quoi. C'est-à-dire que, pour une part, beaucoup de débats aboutissent au contraire à la confusion. C'est ça le problème. Alors, ça veut dire qu'il y a des conditions pour que le débat aide à clarifier. Alors là, Platon l'avait abordé. Autrement, on a, comme disait Platon, une espèce de vision bariolée de monde, bariolée de la multiplicité chaotique qui peut retourner au chaos. La confusion, c'est aussi le chaos. Donc, je dirais simplement que la condition pour qu'un débat produise de la clarification, c'est sans doute tout simplement qu'il faut que chacun se soumette à l'exigence de la méthode. Il faut de la méthode. Et la méthode, c'est justement déjà que chacun fasse l'effort de passer au fil de la critique ce qu'il dit, son discours. Et passer au fil de la critique son discours, c'est notamment, c'est particulièrement, essayer d'évaluer en quoi les mots qu'il utilise ont une portée de justesse, ont quelque chose de juste et ne sont pas des mots qui sont de l'ordre du discours spontané, du discours quotidien, etc. Alors, à partir de là, on peut distinguer deux types de langage, deux types de mots, hein. Il y a le langage de la quotidienneté qui est le langage communicationnel. Et le problème, c'est que souvent, les discours actuels sont de l'ordre du langage communicationnel. Le langage communicationnel est nécessaire. Il est nécessaire. C'est le langage du quotidien, c'est le langage de la vie pratique. On prend parfois l'exemple quand on dit « passe-moi le pain ». Voilà, c'est un langage nécessaire. Il ne doit obéir qu'à une seule exigence, qui est quand même une exigence importante. C'est que les mots qu'on utilise, qui sont des mots généralement concrets, le pain par exemple, il faut qu'il y ait une adéquation entre le pain et l'objet qu'il désigne, c'est-à-dire entre le signifiant et le signifié. Parce que si on utilise, ça arrive parfois qu'on se trompe, un mot de travers, on ne va pas être compris par les autres. On désigne « passe-moi le beurre à la place du pain » parce qu'on s'est trompé, c'est les lapsus par exemple, il va y avoir un malentendu. Donc dans le langage communicationnel, effectivement, il y a déjà une exigence d'adéquation entre le signifiant et le signifié. Cette adéquation, alors c'est là que les choses sont déjà compliquées, elle est due à quoi? Elle est due à une convention. C'est une convention sociale. Le problème, c'est que le langage, on y reviendra plus tard par rapport à Rousseau d'ailleurs, qui au fond est un philosophe du langage. Le langage, c'est une institution sociale, au même titre que le droit, au même titre que les institutions d'État, les institutions politiques. C'est une institution, c'est-à-dire que ça résulte d'une convention commune entre les hommes. C'est ce qui explique qu'il y a plusieurs langues d'ailleurs, c'est qu'il y a des conventions différentes. Donc, dans le langage communicationnel, l'adéquation entre le signifiant et le signifié, c'est simplement le fait de respecter la convention. Ce qui est différent du langage, on va dire conceptuel, on va employer un gros mot, c'est du langage qui nourrit la pensée, qui nourrit l'acte de penser. C'est-à-dire qui structure une vision du monde. Et la vision du monde, c'est quoi? C'est au fond, ce n'est jamais qu'une mise en ordre du monde. Une mise en ordre du monde, c'est-à-dire une mise en ordre des représentations que l'on a du monde. Et cette mise en ordre passe par la construction de catégories, au fond. C'est-à-dire que la pensée consiste à créer des catégories et à mettre des relations, des liens, à nommer des relations entre ces catégories. C'est ça, la mise en ordre. Le beau, le vrai, c'est des catégories qu'on constitue, c'est une mise en forme. Et je rappelle que le mot « idée » vient du mot grec « eidos », E-I-D-O-S, qui veut dire « idée », mais qui veut dire plus largement une forme. une forme. Donc la mise en ordre, qui est l'exercice de la pensée, c'est une mise en forme, c'est donner forme au chaos premier qui est le chaos des sensations multiples qui nous envahissent quand on est dans le monde. On est envahi par un flot de sensations en tout genre. La première expérience, elle est sensible. C'est-à-dire que le rapport au monde est un rapport de sensations, un rapport sensible, sensuel. Et on est envahi par cela. Et l'effort de la pensée, c'est de tenter de mettre en ordre ou de mettre en forme. C'est ça la tâche de la philosophie qui part du coup de constat que les mots ne sont jamais innocents. Les mots ne sont jamais innocents. Et le problème, c'est que pour le langage quotidien, c'est-à-dire communicationnel, on est obligé, autrement ça serait une trop lourde fatigue, on est obligé de parler sans réfléchir, en gros. C'est-à-dire que l'exigence de convention, d'adéquation aux conventions, ça devient des automatiques. Heureusement qu'on ne réfléchit pas à chaque instant pour dire « passe-moi le pain ». Automatiquement, on a intériorisé la convention. Mais s'il te plaît, c'est aussi le rôle de l'éducation. S'il te plaît, ça devient un automatisme parce qu'on l'a intériorisé, pas par l'éducation, c'est une forme de conditionnement, quoi, de ce point de vue-là. Donc on a intégré, s'il te plaît, comme un élément d'automatisme conventionnel. Et ça, c'est nécessaire de parler sans réfléchir à ce qu'on dit dans la quotidienneté. Mais en même temps, là est le piège. Là est le piège parce que, hélas, nous sommes des gens pétris, lestés, encombrés aussi de culture. Nous ne sommes plus des hommes de nature, comme disait Rousseau, entre autres. Et donc, le problème, c'est que notre langage quotidien est aussi un langage de la pensée. C'est-à-dire qu'il y a un mélange permanent. Et par exemple, le mot « pain », d'accord, le mot « pain », passe-moi le pain, il faut respecter la convention. Mais dès qu'on dit, au détour d'une phrase anodine quotidienne, « il a mangé son pain blanc », eh bien, on n'est plus dans le même registre. On a sauté de registre. « Il a mangé son pain blanc », on est dans le registre de la pensée, mine de rien. Et donc, là, s'amorce la nécessité de réfléchir à ce qu'on dit. Le problème, c'est que l'homme, l'humain, est bavard, très bavard. Et que trop souvent, il ne réfléchit pas à ce qu'il dit. Et y compris ceux que l'on dit intellectuels sont bavards. Et ils ont la tentation de proférer une parole publique qui n'est pas toujours réfléchie. Voilà, je dirais qu'on est au cœur de l'exigence philosophique qui est qu'il faut déminer le terrain du langage pour tenter de parler plus justement. Alors, les mots vont se faire rares du coup, parce que réfléchir à ce qu'on dit... Il y a une expression populaire qui est très juste, hein, tourner cette fois la langue de sa bouche avant de parler. C'est une façon d'apprendre aux enfants que le langage n'est pas innocent, que les mots ne sont pas innocents et qu'il faut qu'ils s'interrogent sur les mots qu'ils vont utiliser. On ne dit pas tourner cette fois la langue dans sa bouche à quelqu'un ou pour soi-même s'il s'agit simplement de dire « passe-moi le pain ». Ce n'est pas là-dessus que la question se pose. Qu'on ne parle pas comme au 18e ou 17e ou à la Renaissance, c'est clair. Mais ça, ça traduit simplement que le langage, c'est une institution. C'est une institution sociale qui résulte de la convention établie entre des hommes. Et que, par définition, tout ce qui est institution a une dimension historique. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est hors du temps, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Et donc, l'évolution du langage, elle est liée à ce fait-là, au fait de l'historicité du langage. Après, c'est la dimension de l'impact médiatique par les médias. Mais là, on est dans une dimension au départ purement quantitative, c'est-à-dire on touche plus de monde. Alors, ça pose après la question du pouvoir. Je ne suis pas sûr que ça donne plus de pouvoir qu'à l'époque, parce que plus l'accès et Internet le favorise est multiplié, plus les accès à des médias sont multipliés, plus ça crée du bruit d'ensemble. Et plus du coup, le bruit d'ensemble neutralise aussi la parole de chacun. C'est aussi la difficulté de se faire entendre, du coup. C'est-à-dire que pour se faire entendre, la première condition, c'est aussi que chacun se taise. Or, et ça, média ou pas, dans un groupe, on retrouve la même problématique. C'est la question de la libération de l'individu qui est en jeu. C'est-à-dire que dans un groupe, on le voit, par exemple, dans des réceptions. Alors, a fortiori, ça, elles sont mondaines. La principale préoccupation de tout un chacun, c'est de l'ouvrir. Mais le problème, c'est que tout le monde l'ouvre et personne ne la ferme. Du coup, ça crée un brouhaha généralisé. Donc le pouvoir de la parole dans ce cas-là de chacun, il est largement annihilé parce qu'il ajoute du bruit au bruit. On le voit aussi dans certaines salles de restaurant où tout le monde parle à la fois. Alors en plus, il y a une espèce de spirale infernale parce que plus ça parle, plus ça fait du bruit. Donc plus ça parle fort, plus ça fait du bruit. Même dans des débats télévisés, mais c'est la même scène d'une certaine manière. La philosophie correspond à une exigence qui est l'exigence que chaque humain doit avoir, à son niveau, l'exigence de parler juste. Sinon, on aboutirait à une conclusion quand même fâcheuse, qui est que l'exigence de parler vrai ne serait réservée qu'à certains, alors que l'exigence de parler vrai doit être partagée par tous, là où il est, à son niveau, par tous, tout simplement. La philosophie pensée dans son essence répond à cela. C'est Socrate. Socrate, on peut résumer ses discours, sa pensée, sa parole, à cette formule qu'il a répétée plusieurs fois dans les dialogues, je sais que je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas. C'est ce qui a été repris par un philosophe platonicien de la Renaissance qui s'appelait Nicolas de Cuse, qui était plutôt helvétique d'ailleurs. Nicolas de Cuse, qui a écrit un livre qui s'intitule, il l'avait écrit en latin, mais il est traduit en français, La docte ignorance. La docte ignorance. La docte ignorance, c'est précisément je sais que je ne sais pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un point de départ, c'est un point d'arrivée. Alors, on va avancer par rapport aux événements du 13 novembre. Ce qu'on constate aujourd'hui par rapport au drame du 13 novembre, c'est que si on fait un sondage d'opinion, il y a eu des sondages d'opinion de fait, c'est que la principale préoccupation politique des gens, c'est la question de la peur. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'un sondage d'opinion pour le trouver, hein, entre nous. C'est en tendance dominante quantitative. Après, il y a des gens qui réfléchissent, justement. Et vous noterez que tout l'enjeu politique, surtout à la veille d'élections, bon, qui sont pourtant pas des élections portant sur cette question-là, les élections régionales, le problème veut que ces élections régionales arrivent maintenant. Donc elles sont devenues élections nationales. Tout l'enjeu du discours de ceux qui veulent se faire élire, c'est de répondre à la question de la peur. Donc le thème majeur, c'est la question de la sécurité. D'autant plus pour ceux qui étaient là des années passées, mais on y reviendra un peu, un des philosophes majeurs qui fonde le contrat social, c'est-à-dire qui fonde l'État moderne, la société politique moderne, c'est Thomas Hobbes, l'anglais Hobbes. Je rappelle, ça s'écrit Hobbes. Hobbes, toute sa théorie du contrat, dont on est largement les héritiers hein, par beaucoup d'aspects, consiste à dire que la légitimité, le fondement de l'État moderne, c'est la sécurité. C'est la réponse à la question de la peur. Je vous le rappelle que Hobbes part de ce constat qu'il dit en latin, ce n'est pas un proverbe qui vient de lui, d'ailleurs, on l'attribue à lui, il le reprend et le popularise, Homo homini lupus. Ce qui se traduit, l'homme est un loup pour l'homme. C'est son constat de départ. Et on verra par la suite que toutes les philosophies modernes, j'appelle moderne ce qui vient à partir de la Renaissance, toutes les philosophies modernes qui ont tenté de penser la politique, c'est-à-dire la société, l'organisation de la société, qui ont pensé l'État-nation, toutes sont obligées de partir de la scène de départ. De la nommer. La scène de départ, est-ce que c'est quoi? C'est la loi de la jungle, l'homme est un loup pour l'homme. Tous vont partir de cette question-là. Et tous seront dans l'héritage de Hobbes, sauf un seul. C'est pour ça qu'il sera mal perçu d'ailleurs. C'est Rousseau. C'est le seul. Mais Hobbes, Kant, etc., Hegel à sa manière, partiront du constat, l'homme est un loup pour l'homme. Donc la peur est le point de départ. Répondre à la peur est le point de départ. Il n'y a que Rousseau qui va partir du constat inverse. Mais on y reviendra encore une fois. Rousseau partira de ce qu'on a traduit alors d'une façon simpliste et du coup fausse, le mythe du bon sauvage. Le mythe du bon sauvage, c'est Rousseau partira de l'axiome du postulat de départ que l'homme premier, l'homme de nature, encore une fois comme on dit, n'est pas mauvais, n'est pas méchant, que ce n'est pas la peur qui règne entre les hommes, mais c'est pas qu'il soit bon sauvage, il est indifférent au bien et au mal, il est en deçà de catégories morales, hein. Mais il ne veut pas le mal et ni la mort de l'autre, ce qui est clair. Rousseau, dans ses textes ethnologiques, entre guillemets, hein, qui essaye de fonder la scène de l'homme premier, Rousseau dit que l'homme premier est mu avant la raison parce qu'il appelle deux instincts Deux instincts, parce qu'au fond, le terme instinct consiste à désigner une réalité anthropologique qui est avant la raison, avant l'activité rationnelle. Ces deux instincts, c'est l'instinct de pitié et l'instinct de soi. L'instinct de soi, c'est l'instinct de conservation, pour le dire vite et de façon approximative, hein. Mais je ne peux pas développer là. L'instinct de soi, c'est l'instinct de conservation, l'instinct de vouloir être, ou en termes très contemporains, c'est le désir d'être. Alors ça peut amener la violence. Mais l'autre instinct que Rousseau désigne comme étant inhérent à l'homme de nature, c'est l'instinct de pitié, ce qu'il appelle pitié. Alors, qui est un mot qui aujourd'hui a une connotation pas forcément religieuse, mais un peu morale, condescendante, moralisatrice, quoi, la pitié. En fait, en termes contemporains, on pourrait traduire l'instinct de pitié comme le désir de l'autre, le désir de l'autre. Le désir d'aller vers l'autre, l'ouverture à l'autre. On peut le traduire aussi par un terme moins moralisateur qui est la bonté. L'empathie, c'est peut-être plus restrictif comme notion. Après, alors, ça soulève aussi un autre motif, mais Rousseau est un grand lecteur de la Bible, un autre motif biblique qui est central, qui a beaucoup fait penser et qu'on n'a jamais épuisé, mais encore une fois, qu'on retrouve de façon implicite chez Rousseau, c'est le motif de Caïn et Abel, c'est-à-dire du berger nomade et de l'agriculteur sédentaire. Et Caïn et Abel peut se comprendre, se saisir d'un point de vue anthropologique, philosophique, autour de l'opposition sédentaire-nomade. Mais on l'abordera à partir de Rousseau. C'est toujours d'actualité et on le retrouve régulièrement dans les discours de l'extrême droite un peu partout, et qui est réactivé par rapport aux migrants et à l'accueil des migrants, des réfugiés. C'est en gros un discours qui réinstitue l'opposition entre... C'est Alain de Benoît, qui est un philosophe que j'ai déjà évoqué, du GRES, groupe d'études sur la civilisation européenne, qui est un philosophe redoutable, qui est le principal inspirateur des théories d'extrême droite aujourd'hui. C'est quelqu'un qui n'est pas très vieux, doit avoir 60 ans, quoi. Et Alain de Benoît dit clairement que l'identité européenne est fondée sur l'identité du peuple des forêts. Le peuple des forêts, c'est sa façon de nommer le sédentaire, agriculteur, etc. Et que le danger pour l'identité européenne, c'est les peuples du désert. Les peuples du désert, c'est les nomades. Donc, effectivement, cette question, elle est importante, mais on verra qu'au fond, on la retrouve notamment chez Rousseau. Alors, cette exigence des mots justes, je voudrais l'illustrer autour d'un mot clé depuis 15 jours, c'est le mot barbare. Le mot barbare. Vous n'êtes pas sans avoir noté que dans tous les discours depuis 15 jours, ce mot est omniprésent. Et dès le soir, à minuit du 13 novembre, François Hollande prend la parole, d'ailleurs, dans ce qui a été son meilleur discours, parce qu'il était sous l'émotion et assez juste. Mais il parle de barbarie absolue. Dès le 13 à minuit, barbarie absolue, pour désigner l'acte des terroristes de l'État islamique. Enfin, de l'État islamique, j'y reviendrai plus tard, parce qu'il faut comprendre, c'est à mon avis pas tout à fait ça. Et puis après, ce mot barbare, barbarie, s'est mis à tourner en boucle. Vous l'avez trouvé dans le discours de tous les politiques, que ce soit Valls, que ce soit Cazeneuve, que ce soit Sarkozy. Tous ont désigné les choses en termes de barbarie et de barbare. Même l'archevêque de Paris, 23, a désigné aussi les choses en termes de barbare. Enfin bref, c'est un terme qui s'est imposé comme la façon de désigner l'acte, barbarie, et les acteurs, les assassins, barbares. On ne dit pas assassin. On dit barbare. Alors que l'acte, qui est un acte d'assassinat massif, c'est un assassinat. Là, on parle de barbare. Ce qui n'est pas neutre et ce qui pose problème. Donc, je voudrais rapidement faire le tour de l'historicité du mot barbare, pour voir que ce n'est pas un mot innocent, qu'il est chargé de son histoire. Alors, barbare, c'est un mot grec au départ. C'est un mot grec, c'est barbaros en grec. Barbaros qui s'écrit comme ça se prononce. Alors précisément, c'est un problème de langage et de nom. Au bout du compte, pour les Grecs, le barbare, c'est l'étranger. C'est l'étranger, celui qui, pour les Grecs des cités grecques, ne parle pas grec. C'est ce qui expliquera On ne va pas y revenir en profondeur parce que ça a été un des objets majeurs de 2015, ce qui expliquera que les Grecs distinguent juridiquement, philosophiquement, etc., et pratiquement, deux régimes d'étrangers. Il y a un régime faible qui est l'étranger proche, qui est généralement le métèque. Métèque, c'est méta oikos en grec. Méta, c'est deux mots, hein. Et plus loin, c'est des rappels que je fais pour certains. Oikos, O-I-T-R-E-M-A, K-O-S. Oikos en grec, c'est la maison, hein, qui a donné le mot écho, au sens aussi bien d'économie que d'écologie d'ailleurs. Et méta, c'est une préposition qui a un sens multiple, lourd, compliqué, qui indique notamment le mouvement de passage, le changement, le passage, passer d'un registre à l'autre, passer au-delà. Par exemple, métaphysique, c'est ce qui est au-delà de la physique. Donc, méta oikos, c'est celui qui a changé de domicile. Et généralement, c'est un statut dans les cités grecques, le statut d'un étranger dans la cité, mais un statut d'un étranger grec qui parle la même langue. Et puis après, vous avez les barbaros, et là, c'est l'étranger lointain qui n'a pas de nom, l'étranger lointain qui n'est pas nommé, dont le nom ne nous dit rien, et lui qui, dans les cités grecques, n'aura pas, en gros, de droit, dont on se méfie, dont on a peur particulièrement. Bon, après, c'est plus compliqué, parce que, mais je ne vais pas refaire toute l'histoire, parce qu'en réalité, il y a toujours des compromis qui s'instituent au cours de l'histoire d'une société, d'une cité, et qui tempèrent, qui modèrent ce refus. Mais donc, retenons qu'au départ, barbare, c'est un mot grec, barbaros, qui désigne l'étranger en tant que celui qui ne parle pas la même langue. C'est un problème, parce qu'on voit que barbare va avoir, malgré l'évolution du terme, jusqu'à aujourd'hui, toujours une proximité avec la notion d'étranger, avec le statut d'étranger, avec la catégorie d'étranger. Il y aura toujours une proximité. Il y aura toujours une proximité, un voisinage entre barbare et celui dont on ne comprend pas la langue. Si on réfléchit bien, on a une propension aujourd'hui à désigner comme barbare celui qu'on ne comprend pas. Donc, il faut faire attention à ce terme qui est plein de confusion. Et si l'on croit nommer définitivement ceux qui ont les assassins, ceux qui ont assassiné en masse, par le terme de barbare, on n'aide pas à clarifier. Si on croit que nommer ces gens-là par le terme de barbare, c'est le fin mot de l'histoire, on fait erreur. On n'est pas dans la clarification. Je pense qu'on peut très bien comprendre leur réalité et ce qui est en eux. On peut très bien comprendre. Il suffit de développer des analyses documentées, d'avoir une analyse de ce qui est en jeu. Par contre, ce qui caractérise en premier leur réalité, c'est la question, qui est une question juridique, philosophique, humaine, la question de l'assassinat, de l'acte de l'assassinat, c'est-à-dire de la mise à mort de l'autre comme finalité. Et où l'on retrouve d'ailleurs une proximité avec le nazisme, dont l'objectif était la mort. Et d'ailleurs, je l'avais déjà évoqué, ce qui me trouble, c'est le fait que dans le drapeau de l'État islamique, qui est un drapeau noir avec une tête de mort, et dans le symbole des SS, on retrouve la tête de mort sur fond noir. Dans les deux cas, on retrouve la tête de mort sur fond noir. Mais ce n'est qu'une analogie dans tous les cas, parce que ce n'est pas la même idéologie par ailleurs. Mais il y a quelque chose de commun qui est une forme de nihilisme de la mort pour la mort. Je ne prétends pas que ça soit philosophiquement le mot juste. Je dis simplement que je préfère les nommer comme des assassins que d'utiliser de ce mot barbare, parce que je me situe là sur un plan purement juridique, c'est-à-dire des institutions, c'est-à-dire de l'État. C'est-à-dire qu'en français, le mot assassin est aujourd'hui avant tout un mot juridique, un assassinat. Il y a des assassinats collectifs juridiquement, il est défini comme tel. Socrate dit que c'est absurde, c'est une fausse division que de mettre d'un côté la grue, et de l'autre côté toutes les autres espèces. Il dit que c'est une fausse division. Et mettre d'un côté grec et de l'autre côté barbare, c'est une fausse division. Et Socrate explique pourquoi c'est une fausse division, parce que dans tous ceux qu'on met de l'autre côté et qu'on désigne par barbare, il y a des gens qui ont des langues très différentes et des civilisations très différentes. Et l'exemple type, c'est par exemple les Perses du temps de Socrate. Et les Perses, Socrate dit, on est obligé de reconnaître que c'est notre langue et notre civilisation. Ce n'est pas des non-civilisés. Et l'autre chose, mais je vais y venir un tout petit peu plus tard, par rapport à l'État islamique, ce n'est pas du non-civilisé. Je me réfère notamment à cet article que j'évoquerai un peu plus dans Le Monde de Jean-Claude Milner. J'en dis simplement le titre, Le califat a des lettres. Ce titre résume ce que je veux signifier là. Le califat a des lettres. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas n'importe quoi. Dire que ça serait des non-humains, ça serait dire qu'il n'y a pas de pensée derrière, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de langage derrière, ce qui est tout à fait faux. Ce qui est tout à fait faux. Il ne faut pas confondre le fait qu'il y ait, comme pour les nazis, l'analogie historiquement, elle peut être faite, des petites frappes, des petits délinquants qui sont utilisés, et ce qu'il y a derrière, et le projet derrière. On ne peut pas résumer ce qui est en œuvre le 13 novembre aux caractéristiques sociologiques de petits loulous de banlieue. C'est une erreur totale. De même que le nazisme a utilisé le lumpen prolétariat pour les bases œuvres. Donc ne mélangeons pas les choses et ne réduisons pas l'analyse comme trop le font aujourd'hui à une analyse sociologique concernant la réalité des petits loulous désocialisés de banlieue. C'est pas ça le problème. Et d'ailleurs, juste un rappel au passage, mais je vais y revenir plus précisément. Un rappel au passage. On sait aujourd'hui dans les études sociologiques qui ont commencé d'être faites par rapport aux jeunes Français, par exemple, qui se sont radicalisés, qu'il y a un nombre important de jeunes Français de souche, comme on aime à dire certains, et issus de classes moyennes. C'est pour dire que le problème n'est pas de non-civilité versus notre civilisation. C'est pas ça du tout. Je reviens sur le terme de barbare, l'historicité de ce mot quand même, qu'il est important d'avoir en tête. Donc là, j'évoquais les Grecs, barbaros. Ce mot donc va être soumis à variation. Chez les Romains, et notamment pendant tout l'Empire romain, il faut savoir que le mot barbare n'est pas lié à un statut d'exclusion radicale. Tout simplement, c'est la logique de l'Empire. Plus l'Empire romain s'étend territorialement, plus il intègre des populations qui sont des populations non romaines. Et sa stratégie, c'est de les intégrer. Les intégrer. Et Rome est très ouverte aux barbares, qui peuvent devenir, tant que l'État impérial est fort et en expansion, qui peuvent devenir des citoyens romains, des citoyens de l'Empire romain. Où ça va se gâter, c'est à la fin de l'Empire romain, quand l'État éclate et qu'il y a du coup le mouvement de ce qu'on appelle historiquement les invasions. Donc les invasions, les Goths, les Visigoths, les Ostrogoths, les Normands, et on retrouve déjà, avant l'Empire ottoman, on retrouve déjà les Barberousses. Les Barberousses, c'étaient les peuples barbares du Nord, les Vikings, les Normands, etc. Les Suédois, les Francs, les Teutons. Donc l'Empire romain est décadent, les structures de l'État éclatent, sa puissance d'aimantation, d'intégration s'affaiblit, voire disparaît, et donc on désigne ces peuples qui envahissent le territoire de l'Empire romain comme des barbares et dans une connotation négative. Donc les barbares, c'est les envahisseurs. Mais on va trouver là, derrière le mot barbare, quelque chose qui est encore très présent aujourd'hui et qui pose problème si justement on ne débande pas le mécanisme. C'est-à-dire que barbare, et du coup la désignation de barbare est liée à ce que certains ont appelé un complexe obsidional. Obsidional, c'est un joli mot, hein, c'est beau, obsidional. Ça veut dire celui qui est en état de siège. Obsidional. Et c'est un mot latin qui désigne le fait d'être dans la position d'assiégé, l'état de siège. Donc il y a une forme de paranoïa. Je ne suis pas sûr que la catégorie paranoïaque ne soit pas anachronique par rapport aux Romains, mais retenons cela, barbare, qui désigne l'envahisseur, est lié à un complexe d'assiégé, à une mentalité d'assiégé. On est assiégé, donc on retrouve la peur, la menace. C'est toujours présent. J'en veux pour preuve que la facilité avec laquelle circule, dans un sens différent que le sens d'origine, la jungle pour désigner Calais, c'est la même idée que barbare. C'est quelque chose de barbare, la jungle, dans l'esprit des gens, dans l'imaginaire des gens. par rapport à des envahisseurs qu'on ne veut pas, c'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'on est en état de siège. Et regardez dans tout le débat sur le fait d'accueillir les réfugiés, il y a cette peur d'être envahi. Il y a cette peur d'être envahi qui est théorisée par les théoriciens de l'extrême droite autour du concept de grand remplacement. Le concept de grand remplacement qui est développé par des gens comme l'écrivain philosophe Renaud Camus, etc., c'est l'idée que l'Europe va voir ses populations remplacées. C'est-à-dire que les Européens blancs chrétiens vont être remplacés par les Arabes musulmans. C'est ça le grand remplacement. Et le fantasme du grand remplacement est de plus en plus présent dans les mentalités. Mais je vous rappelle la scène que le romancier Didier Denynx a rappelée à la mémoire des Français à travers ses livres, et notamment Cannibal, la scène de l'exposition universelle de Paris en 1931, si ma mémoire est bonne, où on fait venir une délégation de Kanaks, de Nouvelle-Calédonie, où on leur demande de parader au jardin d'acclimatation. Et vous savez ce que Denynx se raconte, qui est un fait réel. C'est-à-dire qu'en même temps, il devait y avoir des crocodiles d'exposés, le jardin d'acclimatation étant un zoo, par ailleurs, et les crocodiles meurent au moment de l'inauguration. Quelques jours avant, ils meurent d'une épidémie. Il n'y a plus de crocodiles. Et le directeur du zoo va manigancer un truc, il va dealer, il va échanger des crocodiles qu'il trouve auprès d'un cirque allemand. Donc, il récupère les crocodiles en échange de Kanaks. C'est-à-dire, il divise la délégation Kanak en deux. Il y en a une partie qui vont dans le cirque et vont être présentés comme des sauvages. Et donc, au jardin d'acclimatation à l'inauguration, vous avez les crocodiles et à côté, vous avez ce qui est présenté dans une étiquette véritable cannibale. Si ce n'est pas l'idée de barbare qui est derrière là, de barbare au sens courant du terme. Et vous savez, entre parenthèses, vu que la Marseillaise est au goût du jour, vous savez qu'on a beaucoup stigmatisé ce joueur de foot canac, Carambeu, parce qu'il ne chantait pas la Marseillaise avant les matchs. Il s'en est expliqué. Et grâce à Didier Denynx, qui a fait une grande interview avec lui dans Paris Match d'ailleurs, Carambeu a dévoilé quelque chose qu'il ne voulait jamais dire, c'est un secret, que son grand-père, Kanak, avait fait partie de la délégation des Kanaks qui avait été exposé comme véritable cannibale à l'exposition universelle de Paris en 1931. Donc, ceci pour dire que la question n'est pas que le mot « barbare » soit utilisé ou pas, parce qu'on voit bien que c'est un mot qui ne désigne pas ce qu'il doit désigner. Par contre, ce qui est clair, c'est que dans les mentalités, le complexe obsidional est toujours facilement présent, qui consiste à nommer l'étranger comme « barbare » au sens où « barbare » ne doit pas se dire. Ce que je veux dire par là, c'est très simple, c'est que « barbare » ne veut dire qu'étranger. Le problème, c'est que « barbare » est utilisé par les associations d'idées comme celui qui est menaçant, qui est le non-humain, le non-civilisé qui est menaçant. Et que cette idée du barbare, que le mot « barbare » ne doit pas indiquer, cette idée suggérée à tort par le mot « barbare » est toujours présente, facilement présente, dans les mentalités, dès que se pose le problème de l'assiéger. Autrement dit, le problème du rapport à celui qui n'est pas nous. C'est-à-dire dès que se pose un trouble sur la question de l'identité. Le problème, c'est que les mots évoluent dans leur sens, mais en même temps, les mots, ils ont une mémoire. Il y a une mémoire du mot, c'est-à-dire que même si le sens évolue, la mémoire dont le mot a été porteur est quand même présente. D'une manière ou d'une autre. Il est présent, et je vais aller jusqu'au bout là, de l'historicité du mot barbare pour mieux me faire comprendre là-dessus. Le fait que l'origine du mot soit toujours présente dans le mot, même si le sens évolue, fait que le mot barbare est toujours quand même connoté, il y a toujours une trace du fait qu'il soit lié à l'étranger. C'est ça le problème. Donc on a vu que la trace qui reste par rapport à l'Empire romain décadent, c'est que le mot barbare est lié à ce complexe d'assiégé, ce complexe obsidional. Ensuite, ça continue la même histoire. Au Moyen-Âge, pas tout de suite, au Moyen-Âge, quand la chrétienté triomphe et que les institutions politico-religieuses chrétiennes structurent complètement le territoire européen, le mot barbare revient au goût du jour pour désigner ceux qui ne sont pas chrétiens. Autrement dit, ceux qu'on appelle à l'époque les Sarrasins, autrement dit les musulmans. Et enfin, pour terminer, pendant toute la période moderne, c'est-à-dire de la Renaissance au XIXe siècle inclus, il y a un mot qui apparaît, alors qui n'est pas le mot barbare directement, c'est un adjectif qui va être aussi substantifié, c'est barbaresque. Et les barbaresques, ça désigne d'une certaine manière les pirates, mais les pirates musulmans. Alors, on voit que depuis le Moyen-Âge, et avec des variations, mais jusqu'au XIXe siècle inclus, barbare, barbaresque va être associé à musulmans. Donc, vous voyez que le mot barbare a la mémoire d'étranger, a la mémoire de celui qui ne parle pas ma langue, a la mémoire de celui qui n'a pas ma religion, a la mémoire de celui qui est musulman. Et que malgré l'évolution sémantique, ce mot est lourd de toutes ces mémoires, et que quand aujourd'hui on va désigner les auteurs des crimes, on peut dire criminels, c'est aussi un terme juridique, des crimes du 13 novembre et d'avant d'ailleurs, du terme de barbare, on n'est pas loin dans beaucoup d'esprits, enfin, à son corps défendant, à son insu, on entretient la confusion des termes, la confusion des termes qui est que peu ou prou, ça reste associé à étrangers, étrangers envahisseurs, à non-chrétiens, à musulmans. Mais je veux dire, par exemple, pour désigner les actes des nazis, les juifs ont beaucoup réfléchi au terme adéquat, et c'est le mot Shoah qui est retenu au final. Parce que barbarie, barbare, c'est pas un mot français au départ, ça n'existait pas, c'est un mot grec. Je veux dire, les mots d'une langue sont des mots qu'on intègre de tous horizons. D'ailleurs, pour compliquer les affaires, assassin qui est devenu un mot juridique. Je vous rappelle que c'est la secte des Hashashins qui fumait du hashish. Le mot hashish et le mot assassin, c'est les mêmes mots. Et qui était une secte, Christian Jambet qui a écrit un très beau livre là-dessus qui s'appelle La Grande Résurrection d'Alamout, qui est une secte iranienne, musulmane, du Moyen-Âge, qui a voulu créer une espèce d'utopie. D'utopie politique, religieuse, notamment autour d'Alamout, qui était une cité. Voilà, et il se trouve que c'était des guerriers redoutables et que par glissement de sens, c'est devenu les assassins, au sens où on l'entend aujourd'hui, de ceux qui tuent. Alors, une précision, hein, par rapport au lien avec les nazis, il est important d'avoir en tête que ce n'est qu'une analogie. Hein. Ne rabattons pas l'un sur l'autre. On a affaire à des réalités historiques à tout niveau très différents. Hein. Donc j'ai recours au lien avec le nazisme uniquement comme analogie pour éclairer certains aspects, c'est tout, hein. C'est important. Après, le mot barbare, pour clarifier les choses, il faut admettre au vu de l'historicité de ce mot jusqu'à aujourd'hui, c'est un mot qui ne peut pas s'opposer à civilisé. Il ne peut pas s'opposer à civiliser, tout simplement, encore une fois, parce que dans cette vision des choses, il reste quelque chose de l'ordre du complexe obsidional, c'est-à-dire qu'on serait la civilisation, et tout le reste ne serait pas la civilisation. On en revient au Kanak. Alors que ces actes du 13 novembre portent atteinte à notre, le mot est trop fort, à notre mode de vie, à notre société, à notre éventuellement culture, certes, mais ne disons pas que ça porte atteinte à la civilisation. Le mot civilisation est un mot qui est trop utilisé dans tous les sens. Regardez le fameux essai qui est un essai qui pose problème dans la vision du monde contemporain qu'il pose sur le choc des civilisations. Attention, le mot civilisation est un mot à utiliser précisément, quoi, très précisément. Les barbaros dans les cités grecques étaient souvent réduits à la condition d'esclaves, que c'était l'étranger lointain qui n'avait pas d'autre valeur que d'être une valeur de force motrice, de force machinale, de machine. Enfin. Alors, continuons d'avancer pour terminer donc sur le mot barbare. Donc, vous voyez sa proximité historique avec l'étranger, l'envahisseur, le musulman au final, hein. Attention donc à cela, parce que l'usage inflationniste de ce mot est le symptôme, au fond, d'un trouble sur l'identité du nous. D'un trouble sur l'identité du nous. Et les débats sur l'identitaire aujourd'hui révèlent ça, sont la manifestation de cela. L'identitaire en revient de plein. La réaction sur la Marseillaise Et le drapeau tricolore, c'est une manifestation de cela. Après, je ne porte pas de jugement là-dessus. Je pense qu'on pouvait chanter la Marseillaise ces derniers jours. Ce n'est pas un jugement que je porte. Là, je suis en retrait pour dire simplement que c'est des symptômes, des manifestations d'une interrogation sur l'identité de la nation, de l'État-nation, parce que l'État-nation, aujourd'hui, est mis à mal. Dire que c'est des barbares au sens de non-humains, du coup implicite, c'est du coup faire l'économie gravissime de conséquences, d'une analyse de ce qui est en jeu. Et c'est faire comme si ce n'est pas des humains, donc ils font n'importe quoi, ils sont mus par le mal, et on a réglé la question, et du coup on n'a rien compris. Le problème, c'est que ce qui est en jeu dans le 13 novembre, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas de la gratuité sans sens. Derrière l'État islamique, etc., il y a toute une pensée structurée, il y a toute une stratégie. Donc, si on évacue la question d'un revers de main en disant c'est des barbares, on n'a pas avancé d'un pouce. C'est ça le problème. Le problème, il est là. Pour résumer brutalement, mais on y reviendra la prochaine fois, sur le fait que Alamout, c'était une utopie criminelle. Les Khmers rouges, c'est une utopie criminelle. Entre parenthèses, je ne saurais que trop vous recommander ce film qui est magnifique, qui s'appelle L'image manquante. C'est un film sublime sur les Khmers rouges. Ça fait peut-être 15 jours qu'il est sorti. C'est un très beau film par rapport aux Khmers rouges, qui est d'une grande poésie. Le cinéaste, qui a eu sa famille décimée, s'interroge sur le fait qu'il n'y ait pas d'image des exactions des Khmers rouges. Il n'y a aucune image. Et donc, il s'interroge sur, en tant que cinéaste, sur l'image manquante qu'il va recréer à partir de sculptures en terre. Pour le dire autrement, c'est comme pour le nazisme, au fond. Il n'y a pas de documents de l'époque. Ce sont des sculptures en terre, des modelages en terre uniquement. Après, c'est entrecoupé de quelques images d'archives, mais qui ne montrent rien, en fait. Qui sont des images, au fond, de propagande. Bon, bref, c'est une parenthèse. Donc, entre Alamout, l'utopie des Achachim, Pol Pot, l'utopie d'un communisme intégral, Daesh, l'utopie du califat, c'est une utopie. Il y a une continuité à penser. Encore une fois, analogiquement, hein, attention, hein, pas historiquement. Alors, pour conclure sur ce volet du barbare, je rappellerai quelques mots de Rousseau, vu que Rousseau, on y viendra, qui sont très intéressants. Et Rousseau, en fond, montre que est barbare celui qui désigne l'autre comme barbare. Et je rappellerai le procès de Socrate, et chez Rousseau, il y a quelque chose de socratique très profondément. Socrate, il se défend en disant: je ne parle pas votre langue, et c'est ça qui est en cause. Je ne parle pas la même langue que vous, dit-il à ses juges. Et Rousseau va retourner le mot barbare par rapport à ses persécuteurs en disant qu'il est barbare. Et je citerai ceci: barbare ici je suis, car je ne suis pas compris d'eux. Barbare ici je suis, car je ne suis pas compris d'eux. C'est une phrase qu'il cite en latin, et qui est en exergue ou en épigraphe d'une de ses œuvres ultimes, qui est Rousseau, juge de Jean-Jacques. Rousseau, juge de Jean-Jacques. Barbare ici je suis, car je ne suis pas compris d'eux. Et pour Rousseau, barbare veut dire naturel, c'est-à-dire intérieur. C'est-à-dire que Rousseau, il comprend son statut de barbare comme étant le fait de vouloir, par-delà la civilisation, c'est pas le mot qu'il utilise, par-delà la société, remonter en deçà de la société corruptrice, pour Rousseau, c'est la société qui a corrompu, remonter à l'homme naturel, l'homme de nature, et par un mouvement d'intériorité, de travail sur l'intériorité. Ça va être toute la démarche de Rousseau. Voilà, donc là, je suis un peu obligé d'en rester là parce que je voulais vraiment aborder un autre volet que j'aborderai seulement la prochaine fois, qui est précisément revenir sur ce qu'est l'État islamique.